Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la cavalerie, au sens moderne du terme, c'est-à-dire de ce qu'on appelle généralement les tanks, les chars d'assaut, ou plus généralement les véhicules blindés, et ce que la guerre en Ukraine nous révèle sur leurs forces et leurs faiblesses, ainsi que sur leur utilité. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir à distance Johan Michel, analyste à l'IISS, l'International Institute for Strategic Studies, qui édite notamment le Military Balance chaque année, ce grand tour d'horizon des différentes armées du monde. Et donc, Johan, vous passez une bonne partie de votre temps à les compter, à les observer, ces tanks. Je peux rappeler que vous étiez notamment passé déjà dans le podcast récemment, en plein milieu de la première phase de l'offensive russe, quand on essayait un peu de démêler en temps réel ce qui était en train de se passer, dans une émission qu'on avait fait avec Emmanuel Dreyfus de l'IRSEM. Donc bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Alexandre. Je vois qu'on ne diminue pas la difficulté.
Ouais. Et ensuite, Michael Shurkin, directeur des programmes globaux dans le cabinet d'analyse 14N Strategies. Je vais rappeler que vous avez été pendant longtemps analyste dans les renseignements américains, puis à la RAND Corporation, spécialiste notamment de l'Afrique de l'Ouest. Vous étiez notamment venu nous parler du Tchad dans le podcast, mais aussi des diverses armées occidentales. Et vous avez publié depuis plusieurs années sur cette question de l'arme blindée, et ceux qui vous lisent notamment sur Twitter savent que vous vous intéressez à la question et notamment aux diverses pensées stratégiques qui incluent les chars, notamment celle de Guy Brossolet sur laquelle vous avez publié récemment, dont on reparlera peut-être. Donc bonjour Michael, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour.
Alors je vais juste te dire que cet épisode est le début d'une série, ou en tout cas j'espère, consacrée à la guerre en Ukraine et ce qu'elle nous apprend des divers types d'armes. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait, je le répète souvent, que c'est une guerre qui est tout à fait exceptionnelle, un conflit de haute intensité aux portes de l'Europe, qui implique l'une des principales puissances militaires mondiales, quoi qu'on en dise, qui est la Russie, qui se trouve face à une grande résistance, alors de l'Ukraine évidemment, et puis d'un certain nombre de pays qui la soutiennent derrière, notamment les pays occidentaux et de l'Alliance Atlantique. Et si, comme on le dit souvent, le seul vrai révélateur de la puissance militaire, c'est quand même la guerre elle-même, eh ben, il est évident que cette guerre-ci en tout cas nous apprend énormément sur les forces respectives, sur les armées respectives, mais aussi de manière plus transversale sur les mérites et sur les meilleurs emplois de tel ou tel type d'armes. Et j'espère qu'on parlera par exemple bientôt de la guerre navale moderne autour du naufrage du Moskva, mais aussi de l'aviation, de l'artillerie et d'autres composantes encore qu'on passera au révélateur du conflit ukrainien. Je voudrais donc commencer avec la cavalerie ou l'arme blindée, dont on sait que l'image a pris un rude coup, en tout cas l'arme blindée russe, depuis le début du conflit. Les derniers chiffres confirmés, c'est au moins 500 chars russes perdus, c'est un sixième du stock total de l'armée russe. Les Ukrainiens évoquent plutôt 700, mais on va rester sur le chiffre vraiment solide de 500. Et de fait, on ne va pas refaire toute la mythologie du javelin et des différentes armes utilisées par les Ukrainiens, mais il est clair que les chars russes ont montré leur vulnérabilité, en tout cas dans leur emploi par les forces russes depuis 2 mois, face notamment aux ATGM, donc aux missiles anti-tank ukrainiens, et en particulier le javelin. Alors, on pourrait le tourner de manière un peu sensationnaliste, du genre « les chars d'assaut sont-ils devenus obsolètes ?» Mais en fait, en creusant un peu le sujet, on s'aperçoit que c'est un débat qui est littéralement aussi vieux que les chars eux-mêmes, qui apparaissent pendant la Première Guerre mondiale et qui ne vont en fait cesser d'être enterrés depuis plus d'un siècle et qui pourtant sont toujours là, en tout cas pour l'instant, ce qui veut peut-être dire quelque chose. Alors pour donner un peu de contexte, j'aimerais commencer peut-être par la question la plus simple de toutes. Qu'est-ce que c'est qu'un tank ou un char d'assaut? ce qui est une différence. Alors, on sait, j'emploie les termes très libéralement, mais on sait que c'est le cauchemar des analystes que de tout appeler un tank, alors qu'en fait, il y a des différences très fines entre blindés, chars, tanks, etc., et tout type de véhicule. Mais quand même, d'une manière générale, qu'est-ce que c'est qu'un, mettons, un char d'assaut ? À quoi ça sert ? En particulier depuis donc, leur apparition il y a un siècle. Alors je ne sais pas qui veut se coller à cette première question très générale.
J'aime beaucoup Alexandre. Michel. Je ne suis pas sûr que je vais être celui qui me colle. Par contre, j'aime beaucoup à quel point le simple fait de dire que le char fait partie de la cavalerie est déjà objet de débat depuis que les chars existent et s'accorder tout sur ce qu'est un char est aussi un objet de débat. Mais je vais juste, parce que du coup, puisque c'est mon boulot, je vais partir de la définition du char de bataille, du military balance que je tiens entre mes mains. Donc, armored tracked combat vehicle, donc blindé, ça c'est le premier élément. Avec des chenilles, ça c'est une définition qui fait des débats là aussi chez certains, mais chez relativement peu de monde, avec une tourelle, ce qui le sépare d'autres types de véhicules.
Donc une tourelle, on va préciser, c'est le fait qu'il y a un canon, mais surélevé, pivotant, et enfin qu'il soit une partie, disons, un peu distincte du corps du char, ce qui le différencie, par exemple, de différents engins motorisés qui auraient un canon quelque part. L'idée du tourelle, c'est que c'est quelque chose qui tourne à 360 degrés et qui est un peu séparé, quoi.
C'est exact. Et d'ailleurs, on pourrait donner dans la définition le fait que la tourelle tourne effectivement à 360 degrés, ce qui le sépare des canons d'assaut, des armes anti-chars diverses, avec chenille ou non. Et on se met généralement d'accord pour un minimum de 75 mm. De calibre pour le canon en question avec un poids minimum de 25 tonnes.
Alors Michael, est-ce que vous voulez peut-être nous éclairer peut-être sur l'historique, en tout cas l'apparition et la philosophie qui sous-tend cette apparition et cet emploi des chars, en tout cas des véhicules blindés, disons depuis maintenant plus d'un siècle, depuis la Première Guerre mondiale?
Tout simplement, ça commence avec la Première Guerre mondiale et c'était conçu pour briser les tranchées, pour que les fantassins puissent traverser le No Man's Land et briser les tranchées et traverser. Et donc, c'est ça la raison pour laquelle on commence avec cette question, est-ce que ça fait partie de la cavalerie ou de l'infanterie? Parce qu'au début, c'était considéré en tant que quelque chose qui soutenait les fantassins, qui roulait avec à leur pas. Donc, les premiers chars étaient longs. D'un côté, c'était aussi fait que les moteurs étaient assez faibles, mais aussi parce que l'idée, c'était qu'ils allaient au même rythme que les fantassins. Et c'était ça. Donc, c'était ça.
C'était une sorte de bouclier qui se déplaçait avec les fantassins.
Qui se déplaçait, mais aussi pouvait absorber les boules des mitraillettes et mitrailleuses et de détruire les mitrailleuses allemandes, comme ça. Et avec les fantassins qui étaient avec ou derrière, mais c'était ça l'idée. Donc, c'était un rampe écrasé, comme ça. Et puis, avec le temps, on a découvert qu'il y avait d'autres emplois. Il y avait des emplois qui étaient beaucoup plus côté cavalerie, c'est-à-dire reconnaissance, mais aussi cette idée de choc. Parce qu'avec la cavalerie lourde, il y avait l'idée qu'avec tous les beaux hommes sur les gros chevaux, ils pouvaient vraiment avoir un certain choc contre les lignes d'infanterie. Et donc, avec ce choc et mobilité de protection, on a découvert que les chars, surtout si on rassemblait les chars ensemble, en masse, comme ça, on pouvait faire des manœuvres, des grandes manœuvres, beaucoup plus vite que l'infanterie pouvait faire, et à l'abri des mitrailleuses, etc. Et on a commencé à improviser et de trouver des moyens de tirer profit de ces capacités. Et c'était vraiment avec le Blitzkrieg que les Allemands ont vraiment perfectionné cette vision, cette idée de faire des chars, des instruments de guerre de premier rang, grâce à la vitesse, grâce à la protection aussi de la puissance de feu. Et c'était ce point-là que le char est devenu vraiment le centre de la formation militaire. C'était vraiment le cœur de l'assaut, de l'attaque offensive, au lieu d'être simplement un truc qui était là pour soutenir l'infanterie.
Donc, évidemment, c'est effectivement la Seconde Guerre mondiale qui va marquer le sommet de l'emploi des chars et de leur importance, notamment après, avec leur emploi par l'armée allemande. Mais si on essaye d'avancer un peu vite, après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a cette importance du char comme outil de choc et de protection, et comme aussi outil pour tenir le terrain. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que très rapidement, en fait, dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, et notamment dès les années 1960, il y a déjà des très gros doutes sur la centralité du char, sur la centralité de l'arme blindée, parce qu'il y a différents types de conflits, différents types de guerres, qui montrent déjà exactement ce qu'on voit aujourd'hui et dont on va évidemment reparler, c'est-à-dire la relative vulnérabilité du char, des blindés d'une manière générale, par rapport à tout un type de missiles et de
C'était
Michael.
la guerre de Kipper en 73 qui a vraiment mis beaucoup de doutes sur la primauté du char parce que ce qui s'est passé, c'est que les armées arabes avaient accès aux Seyer, c'est-à-dire des ATGM, première génération, ou à peu près la première génération soviétique. Avec ces missiles, ils ont réussi à décimer les rangs des chars israéliens. Et ça changeait l'image aussi parce que les Israéliens, dans la guerre de Six-Jours, ont réussi à vraiment. Ils ont démontré une maîtrise du char, du mouvement blindé incroyable. Et cette fois-ci, cela a changé grâce à ces armes, ces ATGM, qui étaient précises, qui étaient guidées, et aussi avoir les têtes. Creuse, je crois que ça se dit en
Alors, on peut
français.
rappeler ATGM, c'est Anti-Tank Guided Missile.
Anti-tank guided missile.
Et la partie guidée est importante parce que, évidemment, ce n'était pas la première fois qu'on avait des armes qui pouvaient venir à bout des chars. On peut penser au
Ou tout à
Panzerfaust,
fait,
à
oui.
différents types
Qui
de.
avait aussi les têtes creuses.
Mais désormais, c'est guidé. Et donc, on peut allonger la distance depuis le char. On peut tirer un peu plus d'un peu plus loin.
Oui, beaucoup plus loin, en effet. On peut tirer à une distance à l'abri, on tire à l'abri d'une grande distance, avec beaucoup de précision, avec un effet dévastateur. Et c'était à ce point-là que les gens ont commencé à vraiment poser la question, est-ce que le chat était vraiment, est-ce que les chats étaient vraiment au sommet de la panoplie militaire?
Johann Michel, est-ce qu'on peut peut-être retracer, enfin en tout cas faire un panorama de l'importance des chars? Est-ce que ça se voit par exemple dans les effectifs? Est-ce qu'il y a un moment où les différentes armées occidentales et pas que occidentales se mettent à se poser des questions et peut-être arrêter de produire autant? C'est tout bête, mais on y pense en ce moment avec les chars russes. Les chars russes et les T-64, les T-72, les chiffres, c'est des dates plus ou moins de mise en production. Donc on voit que il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup d'exemplaires des modèles des années 60 et 70, un peu moins de modèles plus récents. Est-ce que c'est le reflet de ça, de cette espèce de crise, en tout cas de montée des doutes quant à l'utilité du char de bataille?
C'est pas la seule chose qui rentre en ligne de compte. Les nouvelles générations de chars sont le produit généralement de deux choses. La première, c'est le doute quant à son efficacité, qui est à mettre en relation avec son coût de production. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un débat, notamment au sein de l'armée allemande, sur faut-il mieux construire des canons d'assaut sans tourelles, si je simplifie à outrance. Ou des chars qui, du fait de la tourelle, sont des instruments compliqués à produire d'un point de vue industriel. Ça a un gros coût comparativement à une efficacité qui, voilà, est-ce qu'il vaut mieux construire plus de canons d'assaut que de chars? Donc ça, c'est la première chose qui peut conduire à limiter la production de chars.
Un canon, c'est globalement un fût qu'on met sur un véhicule blindé,
Sur un châssis.
sur un châssis, bon, qui est un peu protégé. Donc ça, c'est pas la grande différence. La grande différence, c'est que c'est moins maniable, c'est parce que c'est moins sophistiqué. Mais globalement,
C'est une des différences, voilà.
c'est un canon sur un blindé. Donc de loin, on pourrait dire que si c'est moins cher, bon, ça vaut le coup, quoi.
Voilà, pourquoi pas. La deuxième chose qui fait que les générations s'espacent de plus en plus, c'est qu'en réalité, il y a aussi la question de. Il y en a tellement qui ont été produits qu'il n'y a pas forcément besoin d'en créer des nouveaux pendant un temps. À la fin de la guerre froide, en Europe, il y a tout un ensemble d'États qui vont décider de se passer complètement du char, pensant que ce type de guerre ayant disparu, est
Donc c'est
amené à
quoi?
se raréfier.
C'est la guerre de haute intensité, la grande invasion, la grande
la
guerre
guerre de haute
patriotique.
Intensité et surtout la guerre entre États. Et pour lutter contre des bandes en sandales, pour paraphraser certains chercheurs qui se reconnaîtront, pour poursuivre quelques combattants dans le Djebel ou ailleurs, il n'y a pas forcément besoin d'un char. C'est ce qu'on pense, en tout cas. Donc du coup, comparativement à leur coût, et c'est aussi un des symboles du conflit de grande intensité, c'est le symbole de la guerre. En France, on envoie en OPEX des chars de bataille quand on veut vraiment montrer qu'on est sérieux. Le char Leclerc est quasiment jamais déployé dans les innombrables OPEX de l'armée française. Michel Goya en parlerait mieux que nous, mais il a été déployé deux fois, c'est au Kosovo et au Liban. Généralement, c'est l'espèce de dissuasion conventionnelle à la française. On a posé un Leclerc et donc il n'y aura plus de problème. Mais certains pays s'en débarrassent complètement. Ça va être par exemple le cas de nos voisins belges qui décident que plus besoin d'avoir de chars, c'est trop cher et de toute façon, on ne peut pas les envoyer en force expéditionnaire de façon simple. Le coût de transport est bien trop élevé. Donc pendant les 30 années qui conduisent à aujourd'hui, il y a tout un ensemble de pays qui s'en séparent. En Afghanistan, certains pays vont découvrir qu'en réalité, le char apporte des avantages et vont peu à peu s'en redoter en achetant sur étagère. Mais la trajectoire générale post-guerre froide en Europe occidentale, c'est de dire le char est inutile et donc on va repousser également les remplacements de chars, donc on va conserver beaucoup plus longtemps qu'il n'aurait été souhaitable des générations de chars dépassées. Il y a tout un ensemble on pourrait faire la liste des chars encore en circulation en Europe. Il y a une grande diversité des chars en Europe autant. De l'autre côté de la frontière et en Russie, on a aussi le problème d'une situation économique qui fait qu'on ne va pas développer des nouveaux chars pendant des années et des années parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens.
Alors, qu'est-ce qui pousse à les conserver? Est-ce qu'il y a des engagements? Est-ce qu'il y a des conflits dans les années 90 et 2000 qui poussent quand même à envisager des générations futures? Parce qu'on sait que la plupart des grandes armées occidentales quand même, ont développé des chars qui vont arriver dans les années, soit qui sont arrivés récemment, soit qui vont arriver dans les années qui viennent. Donc, quelle est la réflexion qui pousse malgré tout à conserver cette capacité? Si coûteuse soit-elle pour un des appareils militaires, Michael Shurkin.
Il y avait toujours eu le sentiment que un jour, c'est-à-dire un jour on va en avoir besoin, et quand on a besoin, il n'y a pas de substitut, on ne peut rien substituer pour un vrai char. Il y a dans cette belle article écrit par Dave Johnson, il a cité un général australienne qui...
Alors je vais juste préciser que c'est un exceptionnel article écrit par David Johnson sur le site donc américain War on the Rocks, qui fait un très long panorama des raisons pour lesquelles le char a été conservé mine de rien depuis un siècle et pourrait être encore utilisé à l'avenir malgré toutes les faiblesses dont évidemment on va reparler.
Oui, tout à fait. Mais donc dans cet article, il cite un général australien qui a dit que un char de bataille, c'est un peu comme un... C'est quoi là en français?
Un smoking.
Oui, c'est comme un smoking, c'est-à-dire qu'on a très rarement besoin, mais quand on a besoin, il ne faut que ça. Il n'a pas de... On ne peut pas porter un blazer, ça ne marche pas. Et donc un blazer dans ce cas, c'est plutôt un BBCI ou quelque chose comme ça, mais c'est ça dont il faut. Alors les armées...
Mais donc le dîner smoking, dans cette analogie-là, qu'est-ce que ce serait? Ce serait le conflit où il faut tenir le terrain, où il faut...
Le conflit dans lequel le niveau de danger est si élevé qu'il faut avoir cette protection de l'ordre et aussi qu'il faut avoir cette mobilité. Et aussi, il faut avoir cette puissance de feu, parce qu'il n'y a rien comme le grand canon qui est sur le char. Et quand on regarde les BBCI, les véhicules de ce type, il y a des petits canons de 30 mm, 40 mm, 20 mm, mais avec les gauchards, c'est plutôt 120 mm. millimètres.
C'est pas avec, donc, c'est pas avec 20 millimètres que vous percez un bunker ou des fortifications.
Il faut, voilà, il faut vraiment voilà. cette puissance de feu. Et donc, dans le combat urbain, comme à Fallujah, par exemple, on a vu que les chars sont très utiles parce qu'on peut faire tomber des bâtiments aussi. On a ce niveau de protection. C'est très dangereux dans, les, dans le combat urbain. Et donc, même dans les guerres irrégulières, comme on a fait en Irak, dans les milieux urbains, il faut ce haut niveau de protection. Mais aussi, on avait toujours le sens qu'un jour, il va falloir avoir besoin de ces capacités parce qu'on va falloir, on va se trouver face à un ennemi étatique. Alors, bien que les petites armées comme la Belgique, mais aussi le Canada et les Pays-Bas ont décidé que bon, le risque de la guerre est si petit qu'on n'a pas vraiment besoin, mais la France, les Britanniques, les Américains, les Allemands voulaient quand même préserver la capacité pour préserver la capacité aussi de régénérer, c'est-à-dire d'avoir le
conserver les savoir-faire, quoi.
Le savoir-faire, de garder le savoir-faire en main. Donc, il faut faire ça. Donc, le parc des chars otaniennes est beaucoup plus réduit. La France avait, à l'époque de la guerre froide, plus de 1000 chars. Maintenant, on n'en a que 220, quelque chose comme ça. C'est pareil avec les Britanniques, c'est pareil avec les Allemands. Donc, beaucoup moins de chars, mais il fallait les préserver quand même parce que on ne sait jamais.
Et alors, si on se penche maintenant sur les conflits les plus contemporains, alors on a quelques conflits. Alors, on pourrait déjà parler de l'Ukraine en 2014, où ça avait déjà été disons une arme employée. On pourrait parler aussi plus récemment de la guerre, par exemple, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où c'est aussi un conflit de haute intensité, où les blindés... Bon, là, n'ont pas forcément été vus tellement à leur avantage, encore que ça dépend des contextes. On va évidemment parler du conflit actuel, mais voilà, je vous pose la question de manière très très ouverte. Qu'est-ce que ces derniers conflits, disons depuis une décennie, nous ont appris, enfin nous ont montré sur l'utilité et les vulnérabilités du char de bataille, selon vous, Yoann Michel?
Il faut repartir d'un peu plus loin et d'autres types de conflits que ceux de haute intensité. On s'est rendu compte ces 30 dernières années que si un adversaire avait un char, celui qui n'en avait pas était dans une situation délicate, quasiment quoi qu'il arrive. Dans toutes les situations où, par exemple, des forces occidentales se sont trouvées en face de chars, même anciens, sans en avoir de leur côté, la situation était compliquée, en particulier quand le soutien aérien n'était pas disponible. Il faut garder ça en tête parce que ça peut être dans tel ou tel pays d'Afrique où des forces occidentales peuvent se retrouver, il y a des exemples, hein, en face de chars, y compris mal employés. C'est une situation qui est relativement stressante et on préfère avoir un canon relativement correct à portée de main, y compris si il s'agit d'un ERC-90, qui est un véhicule très léger, particulièrement mal blindé, mais qui disposait d'un canon de 90 mm, ce qui de temps en temps rend service. L'autre aspect, c'est que les canons des chars ont une puissance de feu qui est relativement, si on le compare à soit une bombe lancée par un avion, soit un hélicoptère ou un missile, le canon du char est à un coût beaucoup plus réduit. Son usage coûte beaucoup moins cher que les d'autres types d'armements à efficacité comparable. Donc ça, c'est déjà quelque chose que les conflits récents ont continué de nous apprendre. Maintenant, si on en arrive au conflit en Géorgie, l'Azerbaïdjan ou l'Ukraine en 2014, tous ces acteurs-là étaient des acteurs qui avaient des chars, qui les ont employés et qui, immédiatement après-guerre, ont décidé d'augmenter leur stock dès que c'était possible. Ce qui nous montre que, quel que soit ce qu'on a appris et ce qu'on a pu découvrir de ces conflits en source ouverte, l'un des premiers réflexes des Ukrainiens en 2015, c'est de remonter en puissance leur industrie de défense au niveau notamment des chars. Ce qui nous apprend mieux que n'importe quoi que au moins l'acteur qui est en guerre et en guerre ouverte qui continuait pour les Ukrainiens, leur premier réflexe a été d'en produire davantage. Pourquoi ? Parce que notamment, un char permet de faire une défense active qui résiste notamment à l'artillerie, ne serait-ce que parce que c'est un canon qui bouge.
Donc, si je résume en quelque sorte, quelles que soient leurs limites qu'on a vues, qu'on voit et qu'on va voir, qu'on va continuer à détailler, quand on n'a pas de char, on n'est pas, c'est pas confortable, donc il en faut toujours au moins une quantité minimale. C'est pas l'alpha et l'oméga de la guerre, mais en tout cas, quand on n'en a pas, c'est quand même très gênant à tout point de vue, si j'ai bien compris. Michael Shurkin, est-ce que c'est votre avis aussi?
Oui, tout à fait. Et aussi, en ce qui concerne l'Ukraine, il faut hésiter avant d'en tirer des leçons, parce que on peut dire qu'il n'y a aucune leçon à tirer de la guerre en Ukraine, vu que les Russes luttent très mal. Si ils perdent les chars, ça ne veut pas dire que les chars sont mauvais et qu'il faut se dépasser des chars, mais ça veut dire que plutôt que les Russes se servent mal des chars. Je fais un parallèle avec une comparaison avec la guerre de 91, la guerre du Golfe. Et je sais que les militaires américains étaient, ils étaient très heureux d'en tirer des leçons et de dire que oui, ça a affirmé toutes nos idées sur le air land battle et toutes nos idées sur l'efficacité des armes précises, etc. Mais à mon avis, c'était une guerre qui était si surdéterminée qu'il ne faut pas en tirer des leçons. Ça ne voulait pas dire qu'une telle doctrine, une stratégie, un truc technologique marche bien, parce que bien sûr, on a gagné. Ça ne veut rien dire qu'on a gagné, parce que ça ne démontre rien. Donc, si peut-être la seule leçon à tirer de la Russie, de la guerre ukrainienne, c'est qu'il faut toujours préserver les éléments, les fondamentaux de la guerre, les fondamentaux de la guerre de manœuvre, les fondamentaux de la guerre intra-armée, intra-armée.
Alors justement, parce que ça nous amène sur la bonne manière et la mauvaise manière de se servir des chars, parce que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, on va le dire, je vais détailler, évidemment tout le monde a cette image, mais c'est globalement on voit des chars russes soit embourbés, soit qui se font avoir par des partisans avec donc les ATGMs, les javelins notamment. Et donc on voit des carcasses de chars russes, alors anciens, T-64, T-72, mais on voit quand même des carcasses de chars russes un peu partout dans les steppes ukrainiennes. Bon, ok, si on admet que c'est peut-être la manière de les employer plus que le char qui pose problème, mais qu'est-ce qu'ils font mal? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles sont les conditions de réussite d'un bon emploi de l'arme blindée qui ne sont manifestement pas réunies, en l'occurrence, dans les blindés russes? Johann Michel?
Alors, par habitude, je vais partir des chiffres, parce que je pense que c'est ce qui permet de commencer à apprendre les leçons. Si j'en crois le site Oryx, qui est relativement fiable, ce soir, il compte, on est le 20 avril, en début de soirée, il y a 523 chars russes qui sont déclarés visuellement comptés comme perdus. La moitié d'entre eux, la moitié, sont des véhicules qui ont été capturés. Ce qui veut dire que uniquement la moitié des 500, c'est énorme, hein, 500, hein, c'est plus que ce que la France et la Grande-Bretagne combinées comptent de chars. Il hein. Faut garder ça en tête. Mais la moitié d'entre eux ont été capturés. Et donc, un ensemble assez conséquent d'entre eux ont simplement été abandonnés. Et c'est une conséquence d'un problème logistique, avant tout. Mais il reste les 264 détruits, et là c'est intéressant. Et une partie d'entre eux auront été détruits par des missiles anti-chars, une autre partie d'entre eux par des canons de véhicules de combat d'infanterie, et on y reviendra, mais en fait ce bon vieux canon de 30 mm, il n'est pas
Ouais,
si
c'est
mal que ça.
impressionnant.
Et d'autres auront été détruits en combat anti-chars, en char contre char. Mais on n'a pas de chiffres précis de ce côté-là. Et donc, quand on va prendre les leçons dans quelques mois, parce qu'aujourd'hui c'est encore malheureusement tôt, hein, il faudra tenir compte de ça. Les 500 chars russes détruits, la moitié d'entre eux ont simplement été détruits par la faiblesse logistique de l'armée russe. Je vais contredire un tout petit peu, Michael. On a bien utilisé les chars pendant la guerre du Golfe. L'armée américaine n'a pas eu besoin d'abandonner 150 chars dans le désert parce que sa logistique était impeccable. Et il y a eu des problèmes. Mais on vérifie en partie la doctrine américaine, même si on se dit le char n'a servi à rien. Si on pense qu'il a servi à rien, c'est parce qu'en fait, on n'a pas eu de problème. Ce qui montre que la doctrine elle-même était soutenue par des moyens cohérents et que ben, la doctrine fonctionnait.
Alors, il y a cette question qui est de la logistique, qui est évidemment centrale. On a écrit des pages et des pages et des pages sur la logistique russe, même si on a encore beaucoup de zones d'ombre sur le sujet, et on aura des mois et des années, et voire des décennies, pour faire le bilan de tout ça, évidemment. On s'essaye ici un bilan à chaud, c'est la règle de l'exercice. Mais donc, au-delà de cette question logistique, Michael, vous avez fait référence tout à l'heure à quelque chose qui est aussi tout à fait central, qui est, disons, la combinaison des armes, notamment dans l'emploi de, disons, à bon escient, le bon emploi de l'arme blindée. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire un peu, en tout cas, comment c'est censé être fait et comment et pourquoi, en quelque sorte, les Russes n'y arrivent pas ou en tout cas ne le font pas en ce moment?
Bon, je ne peux pas expliquer pourquoi ils ne le font pas, mais on peut observer. Et il faut toujours comprendre que c'est d'après ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on a vraiment une idée, vraiment un exact de ce qui se passe en réalité, parce qu'on ne voit que des petits morceaux de vidéos qui passent sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être, ce qu'on voit n'est pas du tout représentatif de la réalité. On ne sait pas. On ne sait pas encore. Peut-être un jour, on va le savoir. Mais en général, le bon emploi des chars, il faut avoir un bon mélange avec les fantassins, les chars et qui travaillent ensemble, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont à pied, qui sont dehors, qui peuvent chercher les menaces, voir les menaces, c'est-à-dire des gens qui ont des ATGM. Aussi, l'idée, idéalement, il y a des drones, il y a des hélicoptères qui survolent, qui regardent et qui peuvent aussi détecter des gens qui sont à l'abri, qui sont cachés, qui cherchent à faire des embuscades. Donc, il y a les ressources aériennes, il y a des gens à pied et aussi il y a l'artillerie, il y a les mortiers, il y a tout un ensemble d'outils qui travaillent ensemble pour protéger les chars. Et bien sûr, les chars les protègent, donc c'est pas tous les aliments se protègent et se complètent, et c'est comme ça qu'il fait marcher. Et aussi, on ne peut pas maintenant, c'est trop dangereux de simplement laisser les chars aller avant les fantassins. Il faut que l'infanterie aille avec à un certain niveau pour pouvoir protéger les chars. Ou au moins avoir des avions, des hélicoptères, des drones qui survolent et qui surveillent, etc. D'après ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec des morceaux de vidéos, c'est que les chars opèrent sans cet accompagnement des hommes, de l'infanterie, peut-être même sans l'accompagnement des drones et des hélicoptères, des gens qui sont là pour surveiller et pour les protéger des embuscades, des gens qui sont à l'abri avec les ATGM.
Donc si je comprends bien, c'est un peu comme si on concevait les chars comme une cavalerie folle, enfin comme ce qui pourrait être la pointe de la lance qui emporterait tout sur son passage.
Oui,
Ce que ça
à
a
la
pu,
1940.
voilà, ce que ça a pu être à une certaine époque dans la traversée des Ardennes. Or aujourd'hui, les menaces anti-chars sont trop multiformes et trop importantes et les chars sont aussi trop coûteux pour se permettre de les laisser espérer qu'ils emportent tout devant eux. Johann Michel?
Alors, en fait, ça, c'est historique aussi comme débat. Depuis que les chars existent, on a réalisé quasiment depuis leur première utilisation qu'ils ont besoin d'être escortés par l'infanterie. Pourquoi? Parce que dans la boîte de métal, il n'y a que quelques trous qui permettent de voir à l'extérieur. Et donc, globalement, les angles morts sont trop multiples pour vraiment assurer la protection du véhicule. Sinon, il faudrait lui mettre des boules optroniques partout autour et du coup, il y aurait une autre vulnérabilité. Bref. Mais il n'empêche que si vous regardez les leçons de la 2e DB pendant la reconquête de la France, par moment, ils employaient les chars comme une pointe avec des chars nombreux qui avançaient en tête. Et à d'autres moments, ils employaient l'infanterie légère avançant en tête avec quelques jeeps pour ouvrir et les chars qui accompagnaient l'infanterie et qui suivaient derrière. Suivant les situations, l'un et l'autre sera important. Et en fait, une armée qui fonctionne bien et qui fonctionne correctement et qui sait employer son arme blindée de cavalerie, elle fera les deux. globalement, elle est capable de faire les deux. Là, ce qu'on a vu, c'est une armée russe qui, déjà, il y a les problèmes de logistique. Ça, c'est pas que les réseaux sociaux qui nous permettaient de le voir. On a aussi les photos satellites et on a les conséquences concrètes. Toute l'offensive sur le flanc nord s'est quasiment effondrée sous le poids de sa logistique. Ça semble relativement palpable quand même. Donc ça reste. Donc déjà il y a la logistique. Mais ensuite on a vu des vidéos où effectivement des chars explosaient sur des mines anti-chars sans qu'il y ait eu de reconnaissance d'infanterie. Il y a une image qui a beaucoup tourné, hein, qui est assez terrible, hein, d'un char littéralement vaporisé. Est-ce que c'est un mauvais emploi ou non? Ça dépend de ce qu'il y a en face. Le char se balade tout seul, sans infanterie pour ouvrir. L'infanterie qui aurait pu repérer cette mine anti-char. Oui, mais s'il y a un adversaire devant qui était en train d'utiliser des armes lourdes, bah, il faut bien passer. Et donc, de temps en temps, on perd un char. Voilà. Il faut faire attention aux leçons qu'on tire de quelques vidéos qui sont coupées de façon justement à montrer la vulnérabilité de l'adversaire face à certaines armes.
Mais alors, si on peut maintenant peut-être passer aux menaces qui. Donc là, on est sur des menaces en quelque sorte intemporelles. Il y a toujours eu des missiles anti-chars, il y a toujours eu des problèmes, il a toujours fallu dégager le terrain d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être sur les menaces qui sont émergentes. Alors, on peut préciser que par exemple, le Javelin, c'est un missile qui est tout à fait original de ce point de vue-là. On parlait tout à l'heure rapidement de l'évolution des ATGM, mais ne serait-ce que le fait que désormais. Sont des missiles d'abord qui sont de type shoot and forget, c'est-à-dire que on peut les tirer et se mettre à l'abri et le missile va quand même à sa cible. Jusqu'à assez récemment, ça n'était pas le cas, ce qui fait que bah, il était toujours possible de tirer sur ceux qui avaient un ATGM à l'épaule et de potentiellement leur faire rater leur cible parce qu'il fallait qu'ils restent jusqu'à l'impact du missile. Mais là où je voulais en venir, c'est que par exemple le Javelin est un missile qui est intelligent parce que c'est ce qu'on a un missile de type top attack, c'est-à-dire qui, au lieu d'essayer de percer frontalement les armures qui sont parfois très fortes des chars, en quelque sorte monte et essaye de fondre en piqué sur le sommet de la tourelle qui est l'endroit le moins blindé. Donc ça, c'est aussi, enfin, je veux dire, on arrive à un niveau technologique avec le Javelin typiquement qui est quand même assez inédit pour faire face aux tanks, enfin aux chars et aux protections qu'ils ont. On pourrait parler aussi, je pense que vous en parlerez à un moment, des drones et des munitions rôdeuses qui, de la même manière, peuvent fondre aussi sur les chars. Donc en quelque sorte, qu'est-ce qu'on voit? On a l'impression quand même que, dans une certaine mesure, l'attaque sur les chars a progressé plus vite que la défense, en tout cas dans ces dernières années. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michael, peut-être?
Bon, d'abord, je veux souligner quelque chose que Jean-Michel a dit qui est très important, c'est que on va de temps en temps perdre des chars. Et peut-être ça, c'est une des leçons les plus importantes de la guerre de l'Ukraine, le fait d'être rappelé du fait que les gens meurent dans la guerre. Et c'est impossible, c'est idiot d'imaginer qu'il y a des trucs qui sont invulnérables, qu'on peut faire de la guerre sans avoir des pertes. Et surtout, ce genre de guerre, cette guerre d'haute intensité, beaucoup de gens vont être tués. Et on va perdre des chars, on va perdre des hommes. Et c'est la réalité. Et peut-être c'est un peu bizarre que nous sommes étonnés à voir les chars détruits parce que en réalité ils vont être détruits. C'est très important. Mais avec cette idée, cette question de concurrence avec qui va plus vite, la technologie anti-char, les chars, c'est difficile à dire. C'est vrai que les top attack posent des problèmes, surtout pour les Il y a des nouvelles capacités, des nouvelles technologies qui aident les chars à se défendre. Il y a ce système Active Defense, les mots français me manquent, mais il y a des systèmes Trophy israéliens, par exemple.
Défense active.
Les
Défense
systèmes
active.
de ça, on peut expliquer très rapidement. C'est simplement quand s'ils perçoivent qu'il y a un missile qui arrive, les chars peuvent littéralement tirer dessus, ou en tout cas essayer de projeter des choses, que ce soit des billes, de métal, etc., pour en tout cas essayer de déclencher le missile ou de l'éliminer avant qu'il arrive directement sur le char. Donc c'est une manière en quelque sorte de contrer ou d'espérer en tout cas provoquer l'explosion du missile loin du char et donc de manière moins dangereuse.
Oui,
Oui.
et allez.
Non, mais il faut juste rappeler que la défense des chars est assurée de deux manières, les moyens passifs et les moyens actifs. Donc le passif, ça passe du blindage à des systèmes de brouillage. hein, qui fonctionne tout le temps, et des méthodes plus actives avec des types de blindes de brouillage qui visent directement le missile, des systèmes qu'on appelle en anglais de hard kill, où voilà, il y a un système, que ce soit une grenade ou le blindage qui est réactif et qui va soit détruire ou impacter le missile lui-même, soit contrecarrer sa charge, notamment sa charge creuse. Alors, il y a des systèmes de plus en plus difficiles, compliqués pour le missile, qui permettent d'avoir des doubles charges creuses, enfin des doubles charges qui sont contrecarrées par des systèmes doubles, eux aussi. Enfin, ça c'est de plus en plus cher dans les deux cas.
Michael?
Oui, tant que je sache, les systèmes, les missiles top attack sont assez efficaces contre les systèmes de défense actifs. Je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais j'ai l'impression. Donc, c'est vrai que les systèmes top attack, ça pose des problèmes. Et aussi, les drones posent un problème parce qu'il y a toujours un besoin de défense antiaérienne de basse altitude. C'est un besoin que tous les armées maintenant ont, mais en général, on manque de capacité. On n'a pas encore trouvé des bonnes solutions pour vraiment contrecarrer, faire face à cette menace. Et c'est ça qui change. Et c'est ça la raison pour laquelle je crois que Dave Johnson était juste quand il a dit que. Dans son article, il dit que les ATGM en soi ne font pas la fin du char. C'est pas la fin du char. Mais les drones, peut-être. On va voir.
Mais alors, les ATGM ne font pas la fin du char, mais on peut remarquer qu'il y a quand même un certain nombre d'organismes, d'armées qui... Alors, on le disait déjà sur les années 90, mais on peut préciser qu'assez récemment, bah, le Marine Corps américain a décidé de supprimer leur capacité de char. Donc, ils avaient des chars M1 Abrams. Ils ont décidé d'abandonner complètement les chars pour se réorienter vers d'autres types d'armes plus adaptées à leur mission. Alors, je ne sais pas si ça signe la fin du char d'une manière générale, parce que le Marine Corps, ce n'est pas toutes les armées américaines, mais en tout cas, ça dit quelque chose de l'utilité qu'on pense peut-être plus réduite pour les chars.
Non, je ne crois pas, parce que les marines américaines, ils ont une mission assez spécifique, c'est une force expéditionnaire, et qui se résume plutôt aux armées françaises des années 90. En effet, pour faire la guerre expéditionnaire et dans les endroits austères. Et l'idée chez les marines, c'était toujours de laisser l'armée, de US Army, faire des grandes batailles avec des grands trucs de formation de chars, etc. Donc, ça n'indique pas grand-chose. Mais c'est vrai c'est clair qu'avec les missiles ATGM, mais aussi avec les drones, on peut poser des grands problèmes aux chars. Et ça reste à voir si, avec un bon emploi des chars, c'est-à-dire donc mieux que les Russes, est-ce qu'on pourrait réussir à surmonter ces épreuves, tous ces risques, tous ces menaces. Et on ne sait pas encore. Mais je suis assez optimiste que les armées françaises, britanniques, américaines face à l'armée ukrainienne aurait beaucoup plus de succès à cause du fait qu'ils mènent mieux la guerre que les Russes en ce moment et qu'ils maîtrisent mieux cette guerre combined arms, cette guerre entre armes, que les Russes. Mais ça ne veut pas dire que les Français, Britanniques et Américains aussi ne vont pas perdre des chars et ne vont pas perdre des hommes.
Johann Michel, sur cette utilité à venir et persistante du char?
Et je vais juste réagir, c'est pas un donné acquis, c'est pas acquis que les forces américaines, britanniques ou françaises se comporteraient obligatoirement mieux que les forces russes en tout temps, tout lieu, et quel que soit le budget et les efforts réels que leurs hommes font. Hein, y a pas une règle qui fait qu'on se débrouillera mieux. Par contre, dans les limites des leçons qu'on apprend, on réalise bien que l'armée russe a des problèmes d'abord de logistique, mais ensuite dans l'entraînement en général. C'est une des limites des leçons qu'on apprend, et on en parlait dans les difficultés de l'emploi combiné des différentes armes. Voilà, ça passe du soldat qui prend l'ascenseur en combat urbain, brillante idée, à un emploi peu pertinent d'un croiseur le long des côtes quand il y a des risques de missiles. Voilà, l'armée russe a montré un problème d'entraînement à tous les niveaux. En fait, l'emploi du char va persister d'une manière ou d'une autre parce que la mission du char ne pourra pas être remplacée. C'est-à-dire que l'architecture du char va peut-être évoluer, c'est-à-dire ce qui sert à remplir cette mission va peut-être changer, c'est-à-dire qu'on aura peut-être des véhicules plus légers ou au contraire plus lourds, avec plus de protection ou plus de mobilité, des canons plus gros ou des canons plus petits, mais avec une architecture de la munition qui sera différente. Il y a plein de choses qui peuvent faire évoluer le char en tant que tel. Par contre, le fait d'avoir besoin d'une arme qui protège les gens autour de lui, qui perce le front et qui en même temps permettent de faire une défense à un coût raisonnable, une défense active à un coût raisonnable, ça, on en aura besoin d'une manière ou d'une autre. La question, c'est quelle est l'architecture du machin qui fournira cette mission? Ça peut être, ça peut évoluer, comme les chars d'ailleurs ont évolué dans leur architecture depuis la Première Guerre mondiale. On les a vus changer, la Seconde Guerre mondiale voit un choix d'une architecture qui s'imposera, qui est globalement celle du char tigre, qui va s'imposer et devenir la norme avec un T-55 qui est devenu tellement la représentation du char que dans n'importe quel dessin animé, un char ressemblera plus ou moins à ce truc-là. Mais ça ne veut pas dire que pour toujours, le char fonctionnera comme ça. Mais de la même manière que le char a remplacé le cuirassier à cheval, pour une partie de ses missions, il sera remplacé par quelque chose de toute façon. Parce que la guerre, elle ne changera pas dans sa nature profonde. Donc ça, c'est la première chose. Mais par contre, les ingénieurs se donnent beaucoup de mal pour faire en sorte que les chars survivent de mieux en mieux, qu'ils soient de plus en plus capables de remplir leur mission. Et c'est là où les systèmes de brouillage ont de l'efficacité. Ils sont efficaces, les systèmes de hard kill sont également efficaces.
Donc les systèmes de hard kill, c'est de hard kill pour les missiles, en tout cas pour les menaces qui viendraient menacer le char.
Voilà. On a vu des chars russes à Mariupol ou ailleurs se prendre plusieurs missiles anti-chars et continuer leur mission parce qu'ils avaient été interceptés d'une manière ou d'une autre ou le blindage avait fait son travail.
Donc, dans une certaine mesure, c'est aussi le procès de la vétusté des chars. Alors, en tout cas, du fait que la masse des chars que les Russes ont engagés sont relativement vieux, et comme d'autres armes d'ailleurs, n'avaient pas forcément été toujours très mises à niveau, mises à jour, et qu'on se retrouvait avec des armes vraiment de la guerre froide qui avaient assez peu évolué depuis la guerre froide. Ces armes-là, évidemment, face aux menaces anti-chars modernes, elles tiennent pas la route, c'est normal. Mais avec des chars peut-être un peu plus dans l'état de l'art actuel, on pourrait imaginer quelque chose d'un peu différent. Mais alors après, une autre question, c'est est-ce qu'on peut produire dans des quantités suffisantes ce genre de chars, puisque évidemment, on sait que les coûts augmentent vertigineusement. Plus on met de technologie dans n'importe quoi d'ailleurs, et plus le coût unitaire est élevé. Je sais pas, Michael Churkin?
Bon, ça c'est une autre question, ça, c'est une question qui est posé pour les avions et les navires et avec le coût. Et aussi, il y a la question de l'équipement. Peut-être les chars futurs ne vont pas avoir des hommes dedans. Et si c'est un robot, donc peut-être ça permettrait une réduction du prix. Parce que sans des hommes, il ne fallait pas investir autant pour les protéger. Et ce serait plutôt les chars jetables, presque. Jusqu'ici, la technologie, c'est pas à point, mais ça va venir. C'est-à-dire, on est presque là. Mais ça pose des problèmes. Les chars nouvelle génération, qui coûtent énormément cher, un Leclerc modernisé, un Leopard 2, dernier modèle, les Abrams, dernier modèle, il y a un coût énorme. Et il faut vraiment poser des questions. Et c'est là où la TGM devient plus intéressante parce que c'est bon marché. Et donc, il y a des façons bon marché de les détruire. Donc, ça entre dans le calcul. Mais je suis tout à fait d'accord avec le fait que, avec l'idée que les chars vont rester, ils vont avoir une place sur le champ de bataille de l'avenir, à cause du fait qu'on aura toujours besoin des capacités qui ont les chars. Et ça va changer la forme, le contenu, la technologie, ça va changer, mais on va avoir toujours besoin d'un chat.
Donc si je résume, la substantifique moi de la fonction, c'est un gros canon qui bouge, qui est bien protégé et qui peut tenir le terrain. C'est ça en quelque sorte.
Oui, et qui peut aussi communiquer d'une façon ou d'une autre avec les gens qui se trouvent autour d'eux. Autour du char, et donc parce qu'il faut pouvoir intégrer l'activité du char avec l'équipe, mais ça peut se faire dans plusieurs méthodes, c'est facile, mais oui, c'est ça.
Johan Michel?
Oui, voilà, on a vu des évolutions de ces dernières années. Avant que le char soit complètement autonome, si ça arrive un jour, parce que ça pose plein de questions, pour l'instant, ce qui est
Oui,
sûr, c'est
ça,
que
on
la
peut dire
tourelle.
simplement la dronisation du char et des objets terrestres. Je ne sais plus où je disais que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce qui se passe dans les airs, parce que dans les airs, c'est encore relativement simple, le milieu est relativement homogène. Sur mer, déjà, on a beaucoup plus de mal, mais c'est encore relativement simple. Mais alors, faire ça
Oui, c'est compliqué.
sur un terrain avec des collines, des vallons et
De la boue.
de la boue, un environnement très réactif autour, droniser des machins qui vont au milieu d'un environnement aussi compliqué que l'est le combat terrestre, c'est encore un niveau au-dessus. Excusez-moi, je vous ai coupé, Johan.
Non, 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 mais au contraire, c'est tout le problème. On a tendance à avoir une représentation trop simplifiée de ce que c'est que le combat terrestre. Et en fait, il y a des choses que nos cerveaux font de façon extrêmement naturelle qu'un ordinateur un mal fou à anticiper. Donc, pour l'instant, la dronisation du char, c'est encore, je pense, loin devant. Par contre, les tourelles ont tendance à devenir sans personnel à l'intérieur. On a tendance à avoir des tourelles autonomisées avec voilà, le tireur qui est à l'intérieur d'un espace beaucoup plus protégé dans le châssis du véhicule.
C'est-à-dire
C'est une évolution qu'on voit.
la grosse boîte en bas est quand même plus protégée que la petite boîte qui tourne au-dessus. Donc, plus on fait descendre les personnels, plus ils sont en sécurité en quelque sorte.
En quelque sorte, oui, et puis on voit se développer des sortes de capsules à l'intérieur du blindé qui sont encore plus blindées que le reste, parce qu'on est passé. C'est quelque chose qu'on voit pour les véhicules de combat d'infanterie comme pour les chars. Dans les deux cas, on est passé de. Il faut que le véhicule passe, quel que soit l'effet sur l'équipage, et donc la survie de l'équipage était moins importante que le fait que le véhicule continue de fonctionner, à en fait ce qui coûte encore plus cher que le véhicule. C'est le mec dedans, pour plein de raisons, y compris démographiques, nos sociétés, y compris les sociétés des pays d'ex-URSS, les personnels sont devenus plus importants que le véhicule lui-même. Donc on les surprotège à l'intérieur d'une capsule, hein, l'Armata par exemple, le nouveau char russe qui peine à sortir d'usine. La philosophie est complètement changée par rapport au char russe précédent. La tourelle. Et donc, sans homme à l'intérieur, ce qui permet de libérer de l'espace, de mieux protéger les munitions à l'intérieur, parce que l'une des vulnérabilités énormes des chars russes depuis le T-62, le T-64 plutôt, c'est la manière dont les munitions sont arrangées dans le véhicule, qui font que trop souvent la tourelle a tendance à sauter comme un bouchon de champagne, ce qui permet de faire des photos particulièrement glaçantes, qui étaient un peu embêtant quand on est la personne à l'intérieur. Donc voilà, il y a des évolutions technologiques qui vont permettre au char de survivre davantage tout en continuant de réaliser sa mission. Néanmoins, il y a un moment où on arrivera quand même à une limite. Il faudra que le véhicule continue d'exister malgré les risques parce que sa mission demeurera importante.
Très bien, et ben merci beaucoup à tous les deux. Alors, je l'ai dit, on a évidemment le temps de tirer encore plein de conclusions de ce conflit qui est encore pas du tout terminé. Et donc, le temps des bilans, le temps des rétextes et le temps des analyses va se déployer dans les mois et les années qui viennent. Je mettrai évidemment en lien les divers articles qui sortent beaucoup ces derniers jours sur le sujet, et qui, notamment en anglais, parce que c'est un débat qui est beaucoup plus actif en anglais qu'en français, malheureusement. Bah, puis on espère y remédier un peu par l'émission d'aujourd'hui. Mais c'est un débat qui va falloir continuer à avoir, parce que le débat sur les blindés, y compris dans les armées françaises, est déjà ancien et est voué à se poursuivre aussi. Merci beaucoup à tous les deux, Michael Shurkin et Johan Michel.
Merci.
J'espère vous retrouver probablement dans un épisode ou l'autre. Merci beaucoup d'avoir vous être essayé à cette analyse à chaud. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle qu'on est toujours preneur de tous les retours, notes et commentaires sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou sur Apple Podcast ou sur SoundCloud. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.